Bonjour, Cinéchat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Die Hard sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber, le maniaque podcaster. Vous avez le droit de garder le silence pour toujours. Et mes partners sont...
Laurent Vachaud, yippie-kayé.
Philippe Sedbon, motherfucker.
Et bienvenue dans Cinéchat. C'est pire en pire. Ravi de vous retrouver, mes ciné-bobbies. La dépêche vient de tomber. Bruce Willis, dit Bruno pour les intimes, rend son badge et son flingue. Il est trop vieux pour cette merde. Ah non, pardon, ça c'est une autre franchise. L'annonce de sa retraite prématurée pour des raisons de santé éclaire d'un jour nouveau les 10 dernières années questionnables de sa carrière où on pouvait se demander s'il n'essayait pas de devenir Nicolas Cage à la place de Nicolas Cage. Mais dans Abracadapod, comme dans L'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Et nous allons surtout célébrer ensemble plus de 30 ans de bons et loyaux services en nous penchant sur un des personnages les plus emblématiques de sa carrière, Hudson Hawk. Non, je déconne. John McClane dans Piège de cristal, 1988, réalisé par John McTiernan. Mais je laisse sans plus tarder la parole au superintendant, le lieutenant Philippe Sedbon, la police des polices des polices, qui ouvre le dossier et nous ramène à la source dans un chapitre intitulé « Fly me to the moon, motherfucker ».
Alors, oui, les sources, c'est pas du tout Bruce Willis, c'est Frank Sinatra, figure-toi. Frank Sinatra, qui à l'époque où on lui avait proposé le projet, c'est-à-dire ça remonte pas à hier, tournait des polars. Il avait tourné à la fin des années 60 deux films de Tony Rome, qui s'appelaient Tony Rome est dangereux et La femme en ciment, où il jouait un espèce de flic avec un petit chapeau et une chemise blanche.
Et avec une petite auto.
Oui, une petite auto. Et il avait rempilé un peu après avec un bon film, par contre, qui s'appelait Le Détective, où il jouait là encore un flic, mais c'était plus réaliste, c'était plus... Le scénario était meilleur, enfin, c'est plus sérieux, quoi.
Et Tony Rome et la femme dans le ciment sont bien ou pas, quand même?
C'est pas mal, c'est rigolo, mais c'est pas des bons films. C'est okay. Des films de cinéma. On en avait tourné beaucoup, Dean Martin et tout ça, c'est des polars rat-pack.
Il y a Raquel Welch dans un des deux, je crois, non, dans La femme dans le ciment, je crois.
La femme en ciment. Dans l'autre, par contre, il y a Jenna Rowland quand même.
Ah, dans le premier, ouais, dans Tony Rome, et 1966, The Detective, le livre, et 1968, le film, donc.
Ouais. Et là, c'est un très bon film, et ce sont un des meilleurs rôles de Sinatra, c'était avec Lee Remick, Robert Duvall, enfin plein de gens. Et là, c'est un très bon film, un des meilleurs rôles, donc. Et il a arrêté les flics, parce qu'il commençait déjà à être physiquement un peu usé. Il avait la petite perruque, il avait pris un peu de poids, etc. Et le pire est arrivé en 1980. Où il a repris son petit chapeau et son petit manteau, etc. Mais c'était pour un film terrible qui s'appelait De plein fouet, ouais. Où il était beaucoup trop âgé pour le rôle. Et c'était en fait presque un troisième Tony Rome, mais là, c'était tirer un peu la corde.
Mais les héros étaient un peu âgés à l'époque, parce qu'on lui avait proposé, paraît-il, Dirty Harry aussi. Il avait prétexté qu'il ne pouvait pas soulever le 357 Magnum parce qu'il avait mal au poignet.
je reviens sur De plein fouet que j'ai vu, hein. Tu sais le détail concernant ce film quand même assez incroyable par rapport à ce qui nous occupe aujourd'hui?
Non.
Bah, c'est le premier film de Bruce Willis.
Wow. Exact, il joue un barman, je me souviens.
Voilà, et il croise Sinatra à un moment, c'est presque un... Enfin, je ne sais même pas s'il a une phrase de dialogue, hein, je crois que c'est très très court, c'est quand même une synchronicité, comme on dit, incroyable. Tu vois.
C'est fou, ouais, mais dans ce genre de synchronicité, tu as aussi le père de Art Bochner, tu sais, qui joue Alice, le yuppie plein de cocaïne,
oui.
Qui joue dans The Detective.
Ouais, ah,
ouais.
Bochner.
Ouais. Ouais. C'est dingue, ça, quand même.
C'est incroyable. Et donc, c'est Joe Leland, Sinatra. Et ouais. C'était à la base un livre de Roderick Thorpe,
yes.
Le détective. Et donc, 15 ans après, il a l'idée d'une suite en voyant la Tour Infernale. Et il imagine des terroristes et un flic courant dans la Tour Infernale. Et il écrit donc « Nothing lasts forever ». Il n'y a rien qui dure toujours. Le détective est un gros succès. C'est sur l'affiche, il y a marqué un look adulte à la vie d'un policier, si tu veux, parce que c'est un peu l'ancêtre de Cruising. On parle de cas homosexuels, il y a un tueur qui tue des homosexuels. Ouais, donc
et surtout, Sinatra fait accuser, sous la pression de ses chefs, fait accuser et a électrocuté un innocent. Wow. Et c'est censé être le héros du film. Il torture le mec mentalement, il l'oblige à avouer alors qu'il n'a rien fait, et le mec est électrocuté dans le film, et ça le poursuivra toute sa vie, etc.
Dans Cruising, il y a un peu ça aussi. À un moment, il charge un mec de tous les crimes. Alors, enfin, ils lui font comprendre que s'il reconnaît tous les crimes, il aura une remise de peine. Quoi. Enfin, et il y en a un qui tabasse, tu sais, avec un grand blague. Tu ne te souviens pas de cette scène avec un chapeau de
J'ai pas vu le film, mais j'ai vu cette scène sur YouTube parce que tu m'en avais parlé. C'est absolument incroyable.
Jamais vu Cruising, toi ?
Non, on en avait parlé déjà.
Mais depuis, là, t'as pas rattrapé, quoi.
Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps encore, mais dès que l'émission s'arrête, je vais tout de suite aller voir Cruising. En
famille. Oui, c'est un film très joli pour les enfants.
À la manière de Cruising, le film de Gordon Douglas, le détective s'attaque donc à toutes sortes de tabous à l'époque. C'est un film qui est... Ouais. assez différent des films de flics qu'on a eu avant. Et surtout, il est connu parce que c'est sur ce plateau que Mia Farrow se fait servir son divorce sur un plateau par Sinatra qui la remplace parce qu'elle est sur Rosemary's Baby et elle devait faire le détective et elle est remplacée par Jacqueline Bisset et il divorce avec elle à peine un an après avoir été ensemble. Je crois que c'est un ou deux ans. Mais passons sans plus tarder à Laurent qui nous raconte la construction du piège de cristal dans un chapitre intitulé « Welcome to the party, pal yeah !» Le pitch au départ, c'est Rambo dans un building.
Oui, enfin, ce qu'on peut dire d'abord là sur ce film, c'est que ça aurait été normalement un film très différent parce qu'il visait a priori un acteur très différent de Bruce Willis, hein, parce que ce qui donne quand même son prix au film, c'est le côté décontracté, un petit peu, c'est pas un Superman, tu vois, mais il y avait plein de casting, de choix de casting qui paraissent aujourd'hui complètement loufoques, hein, c'est-à-dire qu'il y avait Richard Gere, qui était au départ le premier choix, je crois, il y a eu Al Pacino, parce qu'il cherchait comme ça le côté flic new-yorkais, tu vois, un petit peu. Ouais. Et ils sont vraiment arrivés, je crois, pas tout de suite à Bruce Willis. Alors, ce qui était drôle, c'est que moi, je me souviens, quand j'ai entendu parler de ce film la première fois, ça devait être je devais lire Studio, ou tu sais, dans les trucs genre la Terre tourne, enfin, où tu avais tous les projets des acteurs et des films qui étaient en train de se faire. Et je me souviens je savais à peine qui était Bruce Willis, je ne sais même pas, j'avais dû voir peut-être un épisode de Clair de Lune, je ne suis même pas sûr en plus. Et parce qu'il y avait un autre film qui était sorti, je crois, de Blake Edwards, non ?
Blind Date.
Voilà. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, j'avais vu donc Die Hard, mais je sais pas, je connaissais pas cette expression et je croyais que c'était Die Hard, tu sais, en allemand.
Je croyais que c'était un porno.
Un porno allemand.
Die Hard. Donc je me disais, tiens, c'est bizarre comme titre, tu vois. Et comme tu n'avais pas à l'époque YouTube et Google et tout ça pour vérifier, je me disais, Die Hard, c'est quoi ? C'est peut-être le surnom d'un mec genre Dolph Lundgren, tu vois, ou je sais pas quoi. Enfin, je m'étais imaginé tout un truc. Et
t'as été déçu.
Je ne connaissais pas du tout cette expression « die hard », tu vois, pour dire « dur à cuire enfin, ».
Ouais.
Et donc ça, c'était une petite parenthèse. Quand tu as dit que Sinatra, en fait, avait refusé, je crois qu'en fait, ils avaient été obligés quand même de lui présenter le scénario.
Il a 70 ans. Il a 70 ans quand on lui présente le scénario.
Parce qu'il avait une clause dans son contrat du détective où on devait obligatoirement, par contrat, lui proposer des éventuelles suites, tu vois. Ouais, et je crois qu'il a mis assez longtemps à dire non, donc ce qui fait que les mecs étaient un peu bloqués, tu vois. Je ne sais pas s'il avait pensé peut-être que c'était possible de tenir le rôle, mais ils ont été coincés assez longtemps avec cette histoire. Donc, en fait, moi, ce que je trouve quand même vraiment assez réussi quand même dans le film, et pourquoi ce film-là aujourd'hui, je pense quand même que c'est un tournant dans l'histoire du film d'action hollywoodien. Et ce qui est curieux, c'est qu'en France, il n'avait pas tellement marché. Je me souviens, moi, je devais être encore à l'école de cinéma, je crois, 88, quand c'est sorti. Et donc, ça s'appelait, il y avait ce titre curieux hein, qui s'appelait Piège de cristal.
Beau titre,
un beau titre, mais qui ne dit pas grand-chose en fait sur ce qu'est le film. Hein, tu ne t'imagines pas un gros film d'action avec Piège de cristal. Et je me souviens être allé le voir, je crois, dans la salle de l'UGC Normandie, hein, qui était donc une très belle salle, une grande salle. Et il y avait, on était quasiment même pas 20 là-dedans, tu vois, quoi, l'après-midi. Donc, c'est ça, Bruce Willis n'était pas connu à l'époque, tu vois, on se plaisait de ça. Mais ça n'avait pas été
un connu qu'ils ne l'ont même pas mis sur l'affiche. Ils ont mis la tour au départ sur l'affiche avant que le film ne commence à marcher. Ils n'ont pas, ils ouais. ont fait aucune promotion sur lui qui était très, très catalogué télévision, comme on va le voir.
Ouais.
Et ça a toujours été compliqué, en particulier à cette époque, de faire la transition entre le petit et le grand écran. Dans les tests screening, en particulier dans les projections test, les gens réagissaient assez mal au fait qu'il soit tout d'un coup mis en tant qu'homme d'action.
Ben c'est ça, oui. Alors, nous, en France, on le connaissait moins, mais enfin bon, ça n'avait pas fonctionné. Alors, il y a eu un bouche à oreille. Hein. Les gens qui le voyaient trouvaient ça très bien, un petit peu comme le premier Rocky, hein, qui n'avait pas tellement marché non plus en France, mais les gens qui le voyaient l'appréciaient beaucoup. Mais bon, il y avait, je ne pense pas que ça avait été un succès de commercial en France, ce film. Mais n'empêche que ça a commencé quand même à... La réputation de McTiernan, quand même, était déjà un peu faite hein, sur Predator. Et... Qu'est-ce qu'il avait fait
Justement, il avait travaillé déjà avec Joel Silver et Lawrence Gordon, qui veulent retravailler à nouveau avec lui. Et ouais. ils engagent Jeb Stuart et Steven D'Souza pour faire un scénario.
Mais ils sont... Enfin, Steven D'Souza, c'est pas lui qui avait fait les trucs de Van Damme, là, genre Street Fighter ou des choses comme ça, non
bah, il avait fait Running Man, dont on a parlé la semaine dernière.
Running Man, ouais. Enfin, c'était plutôt un
scénario...
Un peu bourrin. Et alors, je ne sais pas s'il y a eu des ghostwriters crédités ou pas.
Attends, who you gonna call? Ghostwriter!
Je ne sais pas s'il y a eu des ghostwriters, parce que moi, je trouve le scénario vraiment bien, quoi. Tu vois, vraiment très, très bien foutu. Très, à la fois drôle.
Je sais que Stuart, pour résumer un petit peu, c'est Jeb Stuart qui introduit les problèmes de couple de McLean, qui sont effectivement une nouveauté dans le polar et qui sont très, très intéressants. Ouais. Il rajeunit également le héros, c'est à lui qu'on doit ça. Et c'est lui qui amène aussi apparemment le thème du western qui court à travers tout le film, le yippie-ki-yay qu'on a entendu magnifiquement dit par vous en début d'émission, mais également Roy Rogers, Happy Trails et toutes les références qu'on va voir à Gary Cooper et à John Wayne, Mr. Cowboy. Parlons un petit peu plus de casting si vous voulez bien, parce qu'effectivement, personne ne veut de Bruce Willis au départ. Et Bruce Willis surtout est pris sur la série Moonlighting. Et il arrive à faire le film uniquement parce que Sybil Shepherd tombe enceinte, vous avez vu, et tout d'un coup, il y a une espèce de hiatus qui lui permet de faire le show. Mais au départ, quand il commence à tourner, la première scène qui tourne, c'est quand il se jette à l'extérieur de la tour, qui ressemble à la scène de Tom Cruise dans le Burj Khalifa. J'ai l'impression que c'est un hommage maintenant. Et il tourne ça le premier jour après avoir tourné toute la journée sur la série Moonlighting. Il tourne de nuit à Century City sur son premier jour de Die Hard. Ça me rappelle un petit peu...
Michael Fox
sur Back to the Future, où il faisait tout d'un coup, il enchaînait
enfin, les deux. Tu dis que personne ne voulait être Bruce Willis, mais je crois qu'il n'avait pas eu un cachet record pour ça. Enfin,
si, justement, une fois que Schwarzenegger et tous les muscle men refusent et qu'ils se rendent compte qu'ils veulent un flic effectivement plus « normal », entre guillemets, si tu veux, un monsieur tout le monde auquel on peut s'identifier, ils font appel à cet acteur qui est un ancien barman du New Jersey. Tu as vu, d'ailleurs, ils font une plaisanterie à un moment dans le film en disant « c'est peut-être un fucking bartender », dit le chef de la police, tu vois, en parlant de McLean. Et effectivement, c'est monsieur tout le monde. Et il le paye 5 millions de dollars. On n'avait jamais vu ça à l'époque, sauf pour les très grosses stars, que ce soit des Dustin Hoffman ou des gens comme ça. Et ça change la donne complètement. Ça annonce les 20 millions de dollars de Jim Carrey, ça annonce les cachets énormes qu'auraient les films après dans les années 90 et 2000, jusqu'à aujourd'hui où il n'y a plus de stars, c'est fini.
Enfin, vous imaginez Al Pacino là-dedans, même. Je ne sais même pas comment ils ont pu y penser.
Ouah,
quoi.
Motherfucker.
en train de ramper dans les conduits d'aération, ou enfin, c'est complètement invraisemblable.
T'imagines Sinatra.
Sinatra, enfin, je ne sais pas s'ils ont après retaillé le scénario pour Bruce Willis, j'imagine un petit peu, quoi, mais ça peut
être. Dès l'instant où Jeb Stuart a rajeuni le personnage, ils ont fatalement, effectivement, beaucoup plus designé le film pour lui. Ou en tout
cas, parce que tu as lu le livre, Philippe? Non, enfin, il y a aussi beaucoup d'action comme ça dans le bouquin.
Non, enfin, je l'ai pas lu.
Mais cette émission est un hommage à Bruce Willis, donc parlons un petit peu de Bruno. Now we talk about Bruno, no, no, no.
Bombadida, 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 bombadida.
Dans un chapitre sur Walter Bruce Willis, qui est né en Allemagne, comme Hans Gruber, et son frère Simon
Gruber. Eddie Hard.
Voilà pourquoi c'était Eddie Hard.
Il part dans le New Jersey quand il est enfant et il est bègue quand il est petit. Et il va au théâtre, au lycée, il se rend compte que ça l'aide à parler. Il devient, comme on l'a vu un peu plus tard, barman à New York, dans un bar notamment qui s'appelle le Kamikaze, au début des années 80. Et Moonlighting, de 85 à 89, montre qu'il a un véritable talent comique. D'ailleurs, il s'en sert beaucoup dans Die Hard, où il y a énormément d'impro, et il a un très, très bon timing de comédie, qu'il a travaillé justement pendant 4 ans sur Moonlighting. Il fait des pubs pour Seagram. Vous savez ce que c'est, Philippe? Ce que c'est, Seagram?
Non, l'alcool?
Oui, c'est ça. C'est un alcool, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un vin pétillant.
C'est spiritueux, je crois.
Voilà, il touche 7 millions de dollars. Et quand il devient sobre, je crois dans les années 90, il refuse de faire des pubs pour Seagram. Il fait Blind Date avec Black Edwards. Il jouerait dans Sunset aussi, le rôle d'un cowboy. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas Roy Rogers.
Non, c'est Tom Mix.
Tom Mix, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais allé dans la maison de Black Edwards à Malibu au moment où il tournait un film dans sa maison avec Jack Lemmon, un film dont personne n'a entendu parler qui s'appelle That's Life.
Si, c'est un de ses meilleurs. C'est un de ses meilleurs.
Et il y avait une grève de techniciens devant la maison et les syndicats en train de protester parce que le film était non-union, comme on dit en Amérique, et qu'il tournait chez lui. Et ils ont été obligés de remplacer le chef opérateur par un chef opérateur anglais.
That's Life, je me souviens de ce film. C'est pas une sorte de Cléo de 5 à 7, mais avec un mec, non? Enfin,
si, si, exactement.
C'est ça. Hein,
oui. Je ne l'ai pas vu, mais je ne savais pas que c'était un bon film. Hein.
Oui, c'était un bon film. Il y avait Julie Andrews qui jouait sa femme et... C'est un mec qui a fait des analyses parce qu'il pense avoir un cancer et pendant tout le film, il attend les résultats.
Ensuite, il a une série de bides avec Bonfire of Vanities, le bûcher des vanités de ton ami Brian De Palma.
Enfin, normalement, ils n'en voulaient pas de Bruce Willis. Ce n'était pas du tout le personnage. Hein. C'est pour ça aussi que c'est parti un peu en autre boudin parce qu'au départ, ils voulaient un mec genre John Cleese, tu vois, un anglais pour jouer le rôle.
Ah oui, aucun rapport. Effectivement.
C'est le rôle d'un journaliste comme ça, un peu déchu, qui trouve dans cette histoire une manière de redorer son blason. Et en fait, tout d'un coup, c'était l'époque où tu avais Bruce Willis qui voulait un petit peu aussi changer de registre et il voulait beaucoup de stars pour les premiers rôles. Et en fait, dans ce film-là, ils se sont plantés sur pas mal de Tom Hanks. C'était pas non plus le personnage. Mais en tout cas, Bruce Willis, ça s'était super mal passé, en tout cas avec
Il y a un formidable livre sur la débâcle du film.
Mais De Palma l'aime pas du tout et je me souviens qu'il y a eu un livre dont tu parles là, qui s'appelle The Devil's Candy, hein, qui s'appelle d'une amie de De Palma qui était journaliste, qui avait suivi tout le tournage sans savoir à l'avance que ça allait être une débâcle. Hein. Il pensait au contraire que ça allait être un film formidable, donc elle était là tous les jours. Et il se trouve qu'elle a été témoin de comportement de Bruce Willis quand même assez bizarre, c'est-à-dire Bruce Willis commençant à diriger les acteurs à la place de Brian De Palma, tu vois, se faisant mettre de la bombe la peinture pour masquer un peu sa calvitie et tout ça, elle l'a mis dans le bouquin, tu vois. Et l'autre, après, quand il a lu le bouquin et que le film est devenu le bide que l'on sait, ça lui a pas du tout plu, si tu veux, et il a eu une dent assez féroce contre De Palma après, à tel point que nous, quand on faisait notre bouquin avec Samuel, on a été obligé, tu sais, je vous avais raconté qu'on devait soumettre carrément les photos de tous les gens, les acteurs qui figuraient dans ces films.
Tom Cruise, tu nous avais raconté, ouais.
Voilà, il fallait qu'on demande les autorisations. Et le seul qui a refusé, c'est Bruce Willis. Donc, je pense qu'il devait se croire que c'était encore un bouquin qui allait raconter son comportement sur le truc, alors que pas du tout. Bon, enfin bon, De Palma nous avait quand même un peu dit qu'il ne l'avait pas dit de manière vraiment méchante, mais que c'était quand même assez spécial de tourner avec Bruce Willis.
Oui, il n'a pas toujours eu la meilleure réputation, en particulier dans cette dernière partie de carrière dont on parlait. Kevin Smith, si vous voulez aller sur YouTube, parle de son expérience sur Cop Out, qui a été un cauchemar, où Bruce Willis partait, ne revenait pas, arrêtait tout d'un coup la scène et s'en allait, refusé de tourner la plupart des plans, et ça a été très difficile pour tout le monde.
Mais De Palma, ça lui est arrivé plusieurs fois, ce genre de truc, c'est-à-dire quelqu'un va diriger les acteurs à sa place, tu vois. Oliver Stone faisait ça sur Scarface aussi, tu vois, il allait voir Al Pacino, il commençait à lui parler en disant, voilà, j'ai vu comment tu as joué la scène, il faudrait plutôt que tu fasses ça et tout, et l'autre, il a été obligé de le virer, tu vois, parce que sinon, c'est pas possible quand il y a deux personnes qui commencent à parler aux acteurs.
Bien sûr, mais tu as aussi des acteurs, des metteurs en scène qui refusent de parler à leurs acteurs ou qui sont brouillés. Je me rappelle qu'il y avait un film, je ne sais plus lequel, où Lautner ne parlait pas à Ventura et communiquait par
Ah bah,
assistant
oui,
interposé. Ouais.
Melville. Melville et Ventura sur l'armée des ombres,
Ouais.
qui fait un film formidable quand même à l'arrivée.
Exactement. Donc, il fait Hudson Hawk, qui a été revu récemment à la hausse. Je ne suis pas complètement sûr de ce film,
Bah non,
où il chante
c'est
avec
une
Danny
merde.
Aiello. Voilà.
Oh là là.
Il a fait un film très mauvais dont on devrait en faire un ciné-flop qui s'appelle Color of Night, où il montre vaguement sa
Une
bite
seconde
dans une piscine.
sur Hudson Hawk, il y a une anecdote. Tu sais qui était l'actrice qui avait été engagée au départ pour jouer le premier rôle féminin que Andie MacDowell joue dans le film Terminé et qui a
Non?
été virée parce qu'elle avait eu une histoire avec Bruce Willis juste avant que le tournage commence?
Non?
Ça, c'est le côté gossip que j'affectionne et dont vous pouvez
Et
profiter avec
notre
moi.
spécialiste du gossip dans l'émission.
C'est une actrice bien connue du cinéma français, quoi. Tu vois.
Ah, donc tu ne diras pas son nom.
Si, je vais le dire, mais vous ne voyez pas qui c'est?
Emmanuel,
Adjani?
attends,
Adjani?
Micheline Dax.
Ce n'est pas une Française, mais elle faisait que des films français, pratiquement.
Vas-y.
Marouchka Detmers, vous vous souvenez de cette fille?
Ah
Ah
oui.
oui.
Ouais, c'est
Et alors, il
drôle.
paraît que ça a un peu torpillé sa carrière, parce qu'elle commençait un peu une carrière hollywoodienne. Et ça a un peu bousillé sa carrière hollywoodienne, et surtout qu'après, sa carrière même française a été un peu bousillée par la fameuse fellation qu'elle faisait dans Le Diable au corps. Tu vois, donc la pauvre, elle n'a pas eu de chance.
Effectivement, c'est pas facile de passer de Bruce Willis au Diable au corps. The Last Boy Scout, j'aime bien comme film.
Très bon film, ça.
Ouais, où il
Oui, c'est
parlait
pas mal,
avec.
ouais. C'est Shane Black,
Oui, c'est
non, le
Shane Black,
scénario?
effectivement, qui sera un spécialiste des films de Noël aussi et des films de Noël à Los Angeles.
C'est Tony Scott qui avait réalisé.
Exactement, ouais.
Ouais.
Il a fait beaucoup de bons films, Tony Scott, entre
Je suis d'accord.
Ennemi d'État, celui-là. Tu peux regarder
Ouais.
dans sa filmographie, il y a plein de choses très, très intéressantes.
Last Boy Scout, il y a un truc qui annonce un peu Tarantino dans le ton, je trouve, quoi. Tu vois, dans le
Absolument,
côté un peu
absolument.
sanglant, rigolard, noir, mélange comme ça des genres.
Méta, ouais, c'est
Pas
vrai.
facile à réussir. D'ailleurs, je crois que ça n'avait pas marché, hein, le film.
Ouais.
Non.
Donc, sa carrière repart quand il fait la voix du bébé dans Look Who's Talking, chérie,
Ouais.
regarde, et devine qui parle. J'ai raté l'avion. Après, il va retrouver Travolta dans Pulp Fiction, où là, tout d'un coup, il relance de nouveau sa carrière. Il est un spécialiste de renaissance de carrière, parce que quand il fait Le Sixième Sens, il est aussi un petit peu dans le trou et il est formidable. C'était une de mes performances préférées de Bruno dans le film de M. Night Shyamalan. Beaucoup de gens aiment Incassable aussi.
Une petite anecdote aussi, le sixième sens, tu sais pourquoi il l'a fait en fait? Il était
Non.
obligé de le faire. Parce qu'en fait, il tournait un film je sais, je, qui était réalisé par une comédienne qui est connue, qui s'appelle Lee Grant, tu vois qui c'est, qui jouait dans
Très
Shampoo,
bien, très
qui
bien.
fait une des clientes de Warren Beatty et une de ses maîtresses,
Elle joue dans
et
La
qui joue
Chambre de
dans
la Nuit
Damien,
aussi.
et dans Damien, La Malédiction 2,
Et
tu sais,
c'est
elle
une
fait la
grande
femme.
documentariste. Elle a gagné un Oscar pour un documentaire.
Alors, toujours est-il qu'elle faisait un film dont Bruce Willis tenait le premier rôle, et le film s'est arrêté au bout de quelques jours, enfin, parce que Bruce Willis ne s'entendait pas avec elle. Et ils n'ont pas réussi à trouver une autre réalisatrice qui convienne à Bruce Willis, tu vois, ce qui montre quand même le côté capricieux du mec. Et du coup, le film a été arrêté et quasiment sinistré. Et plutôt que de faire un procès à Bruce Willis, ils ont fait un accord comme quoi il leur devait trois films, parce qu'il avait touché quand même une très grosse somme, tu vois.
Ouais.
Et donc, il s'est engagé, je crois que c'était Disney, hein, c'était Buena Vista, enfin, c'était Touchstone, tu vois, c'était Disney.
La branche adulte
Et
de
donc,
Disney, ouais.
il s'est engagé pour faire trois films pour eux. Et dans ces trois films, il y avait Le Sixième Sens, et il y en avait un autre qui avait beaucoup marché aussi, je ne sais plus lequel. Et le troisième, par contre, c'était un bide qui s'appelait The Kid, je crois, ou un truc de Rob Reiner, il me semble.
Ah oui, bah à propos, tu sais qu'il a fait, un dessin animé qui s'appelle Bruno the Kid, où c'est lui en enfant.
Ah ouais?
Au moment où il a été super connu, dans les années 90, il avait un dessin animé qui s'appelle Bruno the Kid. Il y a un épisode d'Alias qui est un hommage à Die Hard, avec Tarantino dedans. Et,
Ah ouais?
Bruce Willis fait une voix avec
Ah
Demi
oui.
Moore. Ouais, Bruce Willis fait une voix avec Demi Moore dans Beavis and Butthead Do America, le cartoon, le long métrage, qui est un très très bon film d'ailleurs de Mike Judge. Il épouserait Demi
Ouais.
Moore sur le plateau de Die Hard. C'est un des premiers vrais power couple, comme on dit à Hollywood. Et c'est Little Richard qui officie leur mariage à Las Vegas.
Mmh.
ah oui, ça me revient maintenant, l'autre film qu'il a fait, qui a été un gros succès et qu'il ne voulait pas faire au départ et qu'il a été obligé de faire, c'est Armageddon. Hein.
Ah, waouh. Ben Affleck mangeait des crackers sur le ventre de Liv Tyler.
Le plus drôle, c'est qu'ils prennent des mineurs pour leur apprendre à devenir des astronautes, alors que ça aurait été peut-être plus facile de prendre des astronautes et de leur apprendre à forer.
Mais donc, il a fait deux films comme ça qu'il a été obligé de faire et qui ont été deux de ses plus gros succès, en fait.
Ouais. Je suis pas complètement convaincu, bien que beaucoup de gens adorent, une fois de plus, donc je vais pas te taper dessus non plus, de son incursion dans la science-fiction. Je suis pas très fan des 12 singes ni du cinquième élément.
Armageddon non plus.
Ouais, mais c'est moins un sci-fi quand même. Et Die Hard donnerait naissance à un genre, avec d'ailleurs pas mal de bons films, puisque ce côté type solitaire dans un endroit, on verrait qu'il y aurait Speed dans un bus de Jan de Bont. Mm-hmm. C'est d'ailleurs Jan de Bont qui fait la lumière de Die Hard, qui fait la photo de Die Hard de façon magnifique. Et Sudden Death, un des meilleurs films de Van Damme, tu parlais de lui, où il est, il se bat à un moment contre une mascotte de hockey. Et Under Siege et Under Siege 2, donc ça c'était successivement dans un bateau et dans un train, où Tommy Lee Jones faisait un terroriste rockstar dans le premier.
Avec un bandana, je me souviens.
Avec un bandana. Et c'était Eric Bogosian qui faisait le méchant dans le deuxième. Donc, c'est deux très bons films aussi. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, parce qu'un des derniers films de Bruce Willis, où il paraît-il, curieusement, il est pas mal et joue un peu plus la comédie que d'habitude, parce qu'il est un petit peu en pilotage automatique, un petit peu en somnambule depuis ces 10 dernières années, c'est un film où il y a un die-hard sur un barrage. Et c'est lui qui joue le rôle de Hans Gruber, du méchant.
Oui. Ah tiens.
Ouais, c'est aussi un film direct to video, mais il paraît que d'un coup, il a un peu plus de tonus dans son jeu, parce qu'il joue un méchant pour une fois.
Ah oui. Ouais. Non, il était très bien en méchant dans un film, tu te souviens, de Under Siege. Non, c'est pas Under Siege.
The Siege.
Couvre-feu, en français, ça s'appelait.
Ouais, le siège, oui, c'est ça.
D'Edward Zwick, qui jouait un général fasciste et tout, il était pas mal du tout.
Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Mais il y a eu des parodies aussi de Die Hard. Vous n'avez pas vu Loaded Weapon avec, oui, si. Avec Samuel Jackson? Il y a un passage où Bruce Willis reprend son rôle.
Mais t'as vu qu'il a fait un nombre incalculable de caméos, Bruce Willis.
En tant que McLean.
The Player.
Non, en tant que Bruce Willis, il a fait Drôle de Dame avec Demi Moore, il a fait...
The Player, ouais.
The Player, oui, très drôle d'ailleurs.
Celui qui fait tout le temps des caméos, maintenant, c'est Matt Damon. Tu le vois dans plein de films en caméo. Ouais, il est très drôle en général.
Il a fait Friends aussi, non?
Ouais,
ouais, c'est absolument. Ça. Il a fait surtout 4 autres Die Hard. J'aime bien le deuxième, j'aime beaucoup le troisième avec Samuel Jackson, qu'il retrouve après Pulp Fiction. Ouais. Et j'aime bien le quatrième encore avec un acteur qu'on voit un peu moins, mais que j'aime beaucoup aussi, qui est Justin Long. Tu sais, c'est celui qui était un peu plus numérique, ouais. CGI, digital, mais il y avait du parcours et Bruce Willis, c'était pas mal. Et j'aime pas du tout celui qui se passe en Russie avec son fils, Jacob Bernier.
C'est terrible, ça.
Voilà, c'est celui de trop, le combat de trop, comme on dit. Et il était question, je crois, d'une série télé avec un jeune John McClane, une espèce de prequel en série. Je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle.
Mais le troisième, je trouvais que pendant 40 minutes, c'était tellement brillant que je me disais, si ça se trouve, ça va même être encore mieux que le premier. Et je trouve qu'après, ça piquait du nez et ça, c'était très décevant. Après.
C'est vrai, mais comme disait Hitchcock, comme d'habitude, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et c'est vrai que Jeremy Irons en Simon Gruber, Simon Says, était formidable.
Ouais. Ah, il était vachement bien, mais je sais pas, après, je sais pas si c'est cette histoire de casse avec les lingots, enfin machin, avec que toutes les explosions étaient en fait censées créer une diversion pour que le mec puisse faire un casse, qui a été après une des théories du 11 septembre, vous savez, qu'il y avait soi-disant une réserve d'or dans le World Trade. Enfin, moi, j'avais vu passer des théories complètement abracadabrantes, tu vois, par rapport à ça. Et il se demandait si les mecs du 11 septembre n'avaient pas vu des films hollywoodiens, tu vois, genre The Siege, justement. Ils avaient fait un conseil de guerre à un moment en se disant, mais il y avait Fight Club, est-ce que les mecs ne nous ont pas en fait, attaqués en imitant nos films un peu, tu vois?
Il fait encore quelques bons films tard, parce qu'il est très bien dans Moonrise Kingdom. Il est pas mal dans Looper, bien qu'il ne ressemble pas du tout à Joseph Gordon-Levitt, qui est censé jouer lui jeune, avec plein de latex. On ne va pas parler de perruques aujourd'hui trop, parce que depuis la gifle, on ne parle plus d'alopécie dans Abracadapod, c'est fini.
Non, jamais, jamais.
Pas moi, jamais.
Mais moi, personnellement, j'ai jamais été hyper fan de Bruce Willis. Moi, je le trouve vraiment bien dans Die Hard, tu vois, dans peut-être deux ou trois films, mais sinon,
Pulp
c'est quand
Fiction,
même.
le sixième sens, quand même, il est formidable aussi.
Voilà, oui, mais sinon, c'est quand même très service minimum, tu vois, c'est toujours l'espèce de petit
C'est vrai.
rictus en
Si vous voulez
coin.
voir la plus belle collection de perruques de Bruce Willis, juste je termine sur ce sujet, je conseille Le Chacal,
Ah oui.
où il tue aussi Jack Black. C'est assez drôle, ça.
Ah oui, non, ça c'était un nanar avec Mathilde Amey, je crois, non? Enfin, il y avait un casting assez
C'est
bizarre.
possible. Ça devait être Maroushka Detmers.
Ah
Donc, 10 films par an depuis quelques années, 1 million de dollars par jour. Stallone dirait notoirement de lui sur Twitter, He's lazy and greedy. Il est
oui.
paresseux et cupide parce qu'il demande 4 millions de dollars sur les Expendables, un des Expendables, je ne sais pas si c'est le deuxième ou le troisième, pour simplement 4 jours de tournage. Parlons un petit peu maintenant d'un acteur qui me manque autant que Philip Seymour Hoffman ou James Gandolfini, Alan Rickman. Alors on
Ouais.
disait le meilleur, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Hans motherfucking Gruber quand même, les amis.
Énorme, énorme.
Énorme. Extraordinaire.
Moi, c'est la première fois que je le voyais. Enfin, je crois pas que je connaissais cet acteur avant, quoi. Vous le connaissiez, vous, avant
Non,
Die
c'est son
Hard?
premier film. Joel Silver, le producteur, et John McTiernan vont un soir au théâtre à New York voir Les Liaisons dangereuses où Alan Rickman joue Valmont, parce qu'il est très connu en Angleterre. C'est un formidable acteur de théâtre qui est un acteur shakespearien. Il a commencé à la Royal Shakespeare Company. Et là, ils se disent, bon, c'est lui, on a trouvé notre méchant. Et effectivement, il est extraordinaire. Il y a un truc qui m'a frappé cette fois-ci encore plus que d'habitude. Il y a un archétype de film en Amérique que vous connaissez peut-être, on les appelle en Amérique les slobs versus snobs. Tu sais, les crades versus les snobs. Et on a ça dans Caddyshack où tu as ces golfeurs qui sont l'élite des golfeurs face à des golfeurs amateurs. Tu as ça aussi dans National Lampoon, tu sais, les films où tu as John Belushi avec les fraternités de preppy et de yuppie. Donc plutôt des comédies en général. Ben là, tu as vraiment ça avec Hans Gruber, qui est cette espèce de Européen bien habillé, élégant, qui a beaucoup de mépris pour cet Américain qu'il appelle un cow-boy d'une culture qui est en déclin. Et ça, c'est très intéressant, cette dimension de classe sociale entre les deux, je trouve, et de mépris de Gruber pour McClane.
Oui, puis McClane qui est toujours en tricot de corps, tu vois, un peu prolo, et l'autre qui est avec des costumes hyper bien coupés, tu vois, pour montrer que le terroriste est finalement beaucoup plus classe que le héros, quoi.
Exactement, mais d'ailleurs, ça annoncerait tous ces terroristes européens, ce qu'on appelle les Eurotrash, qu'on verrait dans tous les films. Mais là, ça m'a frappé parce qu'il y en a au moins deux ou trois qui ressemblent à des coiffeurs de Beverly Hills avec leurs super longs
Oui,
cheveux, dont
très long
Alexandre,
jeu.
ouais, dont
Et
Alexandre Goudounov.
même l'Asiatique a les cheveux très très longs. T'as vu, il a sa petite scène, j'avais jamais remarqué cette scène où il vole un candy, tu te souviens, dans une
Bien
vitrine?
sûr, improvisé.
Quand il attend l'assaut, là, oui.
Improvisé par le légendaire Al Leong, c'est son nom, il ferait plein de henchmen, plein de tough guys comme ça dans les années 80. D'ailleurs, je pensais que le seul vol qui a été réussi dans cette tour, c'est le vol de cette barre de chocolat par Al Leong.
Exactement. C'est le vrai héros du film.
Mais je crois qu'on le voit dans Last Action Hero, celui-là, après, non? Il me
Ouais, c'est
semble.
possible, on le voit dans plein de films, effectivement, on le voit même dans Bill and Ted, Excellente Aventure. Et tu as vu, en 1984, dans Beverly Hills Cop, tu as déjà un peu cette dimension du flic qui arrive de province, qui arrive de Détroit, je crois, et qui arrive à Beverly Hills et qui tombe sur ces clowns californiens et qui a ce mépris. Pour Los Angeles, McClane, dès qu'il arrive à l'aéroport et qu'il voit cette fille sauter dans les bras du type, quand il arrive à la partie, à la Nakatomi Tower, et que ce type essaye de lui faire une bise, où il est d'un coup vaguement homophobe avec ce type, on sent effectivement que c'est un autre monde qui arrive, et ça, ce serait très populaire dans les films de cette époque.
Mais c'est un
Aussi.
schéma qui vient d'un shérif à New York, un peu, tu vois, du mec qui arrive dans un patelin qui n'est pas le sien, tu vois, et
Ouais.
qui est pris un peu pour un plouc, quoi.
Ouais, c'est vrai. Alan Rickman aurait une splendide carrière qui serait malheureusement interrompue trop tôt, mais il est le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs. C'est la meilleure chose du film face à Kevin Costner.
Dans Robin des Bois, il pousse encore ce qu'il faisait dans Die Hard, c'est-à-dire qu'il pique complètement le film à la vedette. Et il joue complètement sur une autre tonalité, c'est-à-dire qu'il fait carrément,
Complètement.
on dirait le loup tu sais, de des animés de Tex Avery, quoi.
C'est vrai, non, il a compris qu'il fallait qu'il soit tout d'un coup qu'il soit sur 11 Et effectivement, ça donne une performance inoubliable. Il est formidable dans Sense and Sensibility. Il est formidable aussi dans Truly, Madly, Deeply. Il peut passer du drame à la comédie magnifiquement comme les grands acteurs. Galaxy Quest, extraordinaire.
Ah, magnifique. Magnifique.
Magnifique. Donc, comme je disais, il est très regretté. Il a une belle carrière aussi dans les Harry Potter, où il joue le rôle de Snape. Et il peut passer comme ça de films un peu plus intimistes à des films plus gros budget et naviguer sans aucun problème entre les deux. Le film se passe à Noël, à Los Angeles. Donc, on dit depuis que c'est un film de Noël. Effectivement, il y a énormément de références entre la musique. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho.
Little Weapon, ça ne se passe pas à Noël aussi, un des deux. Je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2.
Tu as raison, puisqu'au début, je crois que Mel Gibson arrive dans un endroit où on vend des sapins de Noël quand il est avec ses dealers et qu'il fait son numéro des Trois Stooges.
Ça doit être Joel Silver, peut-être qu'il doit aimer les côtés Noël. Tu vois.
C'est possible, et surtout Shane Black, puisqu'il y a son Iron Man se passe à Noël. Et la plupart de ces films se passent à Noël. J'avais adoré The Nice Guys, le film où Russell Crowe était avec Ryan Gosling.
Oui, très bien. Très bien.
Prouvé tous les deux qu'ils étaient très bons en comédie.
Il est assez marrant, Shane Black, parce que là, je suis ami Facebook avec lui. De temps en temps, j'ai juste interagi deux, trois fois. Et alors, il doit déconner parce qu'il fait croire, enfin, je ne vois pas pourquoi il ferait pas, il prendrait ça au sérieux, mais enfin, il dit qu'il y a un fantôme dans sa baraque, tu vois, et alors il se prend en photo en train de voir le fantôme comme ça. Il a l'air quand même assez secoué, tu vois, et il le fait de manière insistante, et tu vois, il y a des gens qui commentent, qui ont l'air de le prendre au sérieux, du genre, mais t'es pas allé voir quelqu'un, il faudrait peut-être aller voir un exorciste, et le mec joue le truc à fond, tu vois.
Bon, là, il a bien réussi, parce qu'effectivement, son Iron Man est plutôt pas mal. Et il a rejoint l'écurie Marvel. Il a beaucoup de succès. Je n'avais pas vu Kiss Kiss Bang Bang, qui paraît-il était très bien aussi.
Mais c'est un bon scénariste. Il a un peu arrêté, non, au bout d'un moment, passé tous ses blockbusters. Après Long Kiss Goodnight, après Nice Guys, il est devenu réalisateur. Mais qu'est-ce qu'il a fait après Nice Guys?
Iron Man 3, c'est avant ou après?
Ah, c'est peut-être après.
Ouais. Ah, parlons un petit peu de Art Bochner. Bobby Ellis, qui est quand même extraordinaire.
Il était tellement bien que j'étais surpris qu'il ne fasse pas plus de choses après.
McTiernan ne l'aime pas sur le plateau parce qu'il voulait qu'il le joue à la Cary Grant, beaucoup plus élégant. Mais l'autre joue cette espèce de cocaïnomane dégénéré. Il ressemble beaucoup aux exécutifs de studio de l'époque, en fait. Une critique de McTiernan qui est très satirique dans son film, aussi bien vis-à-vis de la police que des médias, comme on va le voir. Mais Art Bochner est formidable et il finit par convaincre McTiernan qui voit Joel Silver et Lawrence Gordon se marrer au rush. Et il se dit finalement, effectivement, c'est la bonne couleur pour le personnage parce qu'il vole toutes ses scènes. Vous avez remarqué qu'à un moment, les terroristes lui servent un Coca-Cola? Et en fait, c'est parce qu'il a demandé de la coke et ils n'ont pas compris. Ils expliquent
rien. Ce qui est génial, c'est que c'est la synthèse du mot tétaclac, tu sais. je trouve que c'est la tétaclac parfaite, quoi.
C'est vrai. Et puis, quand il va mourir, on a très peur pour lui parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire, c'est Serpent. Et lui est très à l'aise, comme toujours.
J'adore quand il fait les petits airs entendus, tu sais, à Gruber. Il lui fait les petits regards complices, tu sais, genre, je m'occupe de tout, t'inquiète pas, Coco.
Moi, je l'avais vu dans un film qui est complètement méconnu maintenant, mais c'était un des premiers films écrits par David Koepp, le scénariste de Carlito's Way et de Jurassic Park et tout. Ça s'appelait Appartement Zéro.
Ouais.
Un truc qui était tourné à Buenos Aires, une sorte de thriller un peu polanskien. Et avec, je ne sais plus qui jouait, je crois que c'était Colin Firth qui jouait dedans. Non,
et Marouchka Detmers. Mais le film coûte 35 millions de dollars et en remporte 141. C'est un énorme succès. Il est tourné à la Plaza Fox à Century City, comme je disais. Donc, la Nakatomi Tower est une vraie tour, à part certaines scènes comme cette espèce de magnifique fontaine qui est inspirée de Frank Lloyd Wright, tu sais, où le patron de Nakatomi donne son petit speech au début. Et la lumière est sublime. The name's Bond, John the Bond. Il fait un beau travail quand même.
Ouais. C'était surtout l'élégance de la réalisation qui frappait, je me souviens, parce que d'habitude, ces films-là, c'est souvent mis en scène, tu vois, un petit peu façon bourrin. Et là, je trouve qu'on se souvient des séquences, tu sais, où tu as les ascenseurs qui se croisent, comme ça, quand il est au-dessus de la cabine. En fait, tu avais vraiment une manière de filmer l'action.
C'est vrai, à la manière de Hitchcock avec le Bates Motel ou de Kubrick avec l'Overlook, il arrive à donner une vraie personnalité à la tour. C'est pour ça que.
D'ailleurs, il n'y a qu'à comparer le look du premier et du deuxième, qui est un bon film, hein, le deuxième. Ouais. Mais il n'a aucune classe. C'est-à-dire que la photo n'est pas gracieuse, la mise en scène n'est pas élégante. Enfin, tu vois l'apport de Pat Kiernan.
J'irais même plus loin si tu compares ce film à Skyscraper, tu sais, gratte-ciel, le film avec The Rock, qui n'a pas la même histoire, où il mélange Die Hard avec la tour infernale, avec malheureusement trop de tours infernales et pas assez de Die Hard dans le mix. Ça n'a pas du tout la même identité ni personnalité très forte qu'a le film. Ouais.
C'est vrai que l'apport de Ian de Bond est énorme dans l'élégance du film, c'est énorme.
Ah, oui. Speed, moi j'aimais bien le premier aussi. Moi je ne sais pas comment il a fait pour faire que des merdes après, parce que c'était quand même formidablement réalisé le premier. Hein.
Ouais. Et, ouais. Tu n'aimes pas Twister ?
J'aime pas Twister, j'aime pas le Speed 2, mais le Speed 1.
Moi je ne déteste pas. Je déteste pas Twister.
Oui, il y a des choses drôles quand même, les vaches qui volent dans l'ouragan. Et puis tu as vu, il montre The Shining dans un drive-in dans Twister.
J'aimais la première scène, là, quand la petite se fait enlever par la tornade, tu vois, on se croirait dans le Magicien d'Oz un peu, quoi. Mais après, c'était filmé un peu comme une sorte de Spielberg, genre Rencontre du troisième type, un peu, tu vois. Mais, mais le reste, j'avais trouvé ça quand même assez paresseux. Ouais. Enfin,
Philippe, tu disais très justement que dans le film, il y a beaucoup de moments où on voit très nettement que c'est un cascadeur et pas Bruce Willis, en particulier le combat contre Boudounov, c'est les années 80.
Parce qu'à l'époque, je pense qu'ils considéraient que les gens ne faisaient pas d'arrêt sur image, il n'y avait que des VHS et du pan and scan, ce que tu veux. Donc, ils s'en foutaient un peu. Mais le problème, c'est que là, maintenant, tu vois le film en Blu-ray, en HD, tu vois les mecs. C'est-à-dire que Goudineuf, il est en train de taper sur un type, ce n'est pas Bruce Willis.
C'est vrai.
Tu vois un type avec les cheveux beaucoup plus longs, qui n'est pas du tout la même gabarit.
Ça, tu le vois dans plein de films. Depuis qu'on a le 4K et tout, moi, j'ai revu des Roger Moore, des James Bond, et tu vois vraiment que ce n'est pas lui.
Attends, le 4K, tu as vu à la fin de Papillon, tu vois les nageurs sous-marins sous Steve McQueen, sous l'eau.
On le voit très bien avec les palmes et tout.
Ouais. T'as des plongeurs, c'est le grand bleu en dessous.
Ils auraient pu arranger le plan quand même. Numériquement, ça ne va pas être compliqué.
Mais quand même, Willis fait beaucoup de ses cascades et ça se voit par moment. Il manque de tomber dans cet ascenseur. C'est lui qui chevauche justement cet ascenseur. Alan Rickman a terriblement le vertige comme moi. Et quand il tombe dans le vide, c'est vraiment lui. T'as vu, ils le font tomber sur une espèce de matelas comme ils font. Et en plus, ils disent que McTiernan devait le faire partir à 1, 2, 3. Et en fait, ils ont dit lâchez-le à 2. Et donc, tu vois vraiment la terreur qu'aucun acteur ne peut jouer dans le visage d'Alan Rickman.
Ouais.
Et ce qui avait vraiment fait la différence à l'époque, je me souviens, c'est que tu sais, c'est la scène là quand il est parce qu'il est pieds nus, tu vois, c'était ça comme une super idée de scénario, qu'il a pas le temps d'enfiler ses chaussures. Et c'est quand il s'enfonce les éclats de verre, tu sais, dans le. Et je me souviens de scènes où il est au téléphone, je crois, en train de parler avec Alan Rickman. Et il est en train de s'enlever les morceaux de verre des pieds, tu vois. Enfin, t'avais rarement vu le héros d'un film comme ça.
C'est une idée géniale. Je ne sais pas si c'est De Souza ou Stewart, mais effectivement, tout d'un coup, c'est un côté à la fois primal et très vulnérable, les pieds.
Ça démontre aussi l'intelligence de Gruber, qui repère qu'il est pieds nus, qui voit qu'il y a des vitres partout et qui se met à tirer sur les vitres avec Godunov.
Mais il y a certains plans, justement, vous parliez d'arrêt sur image, j'en ai fait quelques-uns. Il y a certains plans où on voit effectivement que ce sont des faux gros pieds en plastique. Et on a l'impression que c'est un peu un hobbit dans le cinéma.
Non, puis tu avais cette idée aussi d'avoir le gars avec qui il est en contact à l'extérieur, mais qu'il n'a jamais vu, tu vois, le flic black avec qui il parle. Et ça crée une sorte de connivence, tu vois, entre les deux. Mais la première fois que j'avais vu un procédé comme ça, je crois que c'était en fait dans un film fantastique de Joe Dante qui s'appelait Inner Space, tu vois.
Beaucoup Inner Space.
Le mec qui était, en fait, il se parlait, mais en fait, le mec était à l'intérieur de lui, tu vois, et ça créait une sorte de buddy movies avec deux mecs qui, en fait, l'un était carrément à l'intérieur de l'autre.
Très bon film qui avait été un énorme bide.
Je me souviens de m'être tapé un fou rire, moi, la première fois que je l'avais vu. Tu sais, quand la première fois, Martin Short entend le mec qui lui parle, il se met à hurler. I'm possessed.
Et je crois que c'était la première fois que je voyais Martin Short, moi, dans ce film, je crois, Inner Space.
C'est possible. Il y a un truc que j'adore dans la série des films d'ailleurs, et dans les films en général, c'est les scènes de grande violence dans un endroit très exigu. On verrait ça aussi dans les Jason Bourne. Là, il y en a une magnifique, effectivement, dans l'ascenseur. Et il y en a une aussi dans le troisième, où il se bat dans un ascenseur et il commence à défourailler parce qu'il se rend compte que les types à côté de lui sont des terroristes. Et c'est toujours très jouissif, ces scènes dans des endroits très, très, très étroits.
La formule, c'était de prendre les films de catastrophe, hein, comme, parce qu'on tourne, on pense à la Tour Infernale, hein, vraiment, hein, c'est ouais, vraiment ouais. Fait aussi comme ça, surtout quand ils vont sur le toit, tout ça, enfin, après quand l'hélicoptère se crache, c'est une sorte de mélange de genre, enfin, du film catastrophe années 70 avec le polar, avec, enfin, et ça c'est très réussi et c'est très difficile à faire, hein, d'arriver à faire, parce que c'est même avant les missions impossibles et tout ça, hein, t'as quand même des scènes, je me souviens les fameuses scènes d'action où il est obligé, tu sais, avec le, quand il se balance avec la lance d'incendie, qu'il essaye avec sûr. Les pieds de péter le verre du gratte-ciel.
Mais comme ça, c'est la première fois qu'on voyait plein de choses, que ce soit un type qui soit dans une ventilation, ce qu'on verra après dans tous les films d'action. Ça, je ne crois pas l'avoir vu avant Die Hard. Et il y a beaucoup de choses.
Parce qu'au cinéma, on est quand même passé assez vite des cascades façon Bebel, qui était bien, hein, quand même. Et là, tout d'un coup, on avait une dimension. Alors, c'était fait sûrement avec des fonds verts, ce n'était pas fait pour de vrai, parce que Belmondo lui faisait ça pour de vrai. Mais là, ça prenait tout d'un coup une dimension complètement différente, hein, pour le film d'action. Ça devenait bigger than life. Il y avait un côté, je me souviens de ça, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est que j'avais l'impression de voir pour la première fois un film d'action à une autre échelle, quoi, tu vois, qui était pas ce qu'on voyait d'habitude.
Mais l'été 88, c'est une grosse année 88 pour le cinéma aussi. D'ailleurs, les dixièmes au box-office derrière Big, Cocktail. Tom Cruise aussi a une grosse année, puisque la même année, il fait Rain Man, Un poisson nommé Wanda, Rambo 3, Twins, Crocodile Dundee 2, Coming to America et Roger Rabbit.
Die Hard, c'est après tout ça ?
Ouais. Il est dixième au box-office, ouais.
Mais il doit après rester Cocktail ?
Après Cocktail, qui a été un très gros succès aussi.
Je pensais que ça avait marché plus que Cocktail.
Mais avec ce film, tout d'un coup, on a un changement de la perception de la star d'action, tu vois. Puisqu'avant, effectivement, on passe de ces types pleins de stéroïdes, comme Schwarzenegger, voilà, c'est culturiste. Et là, c'est un mélange de l'anti-héros des années 70, mélangé avec ces types plus costauds, parce qu'il est quand même pas mal bâti, bien qu'aujourd'hui, tu vois les corps des mecs qui font les super-héros de Marvel, pas 6 heures par jour à la salle, ou comme Reacher. Et je ne pense pas que Bruce Willis pourrait avoir le même corps aujourd'hui, ça a beaucoup changé, ça aussi.
Ah oui, oui. Il y a un truc qui a beaucoup changé aussi, enfin, en tout cas grâce à ce film ou à cause de ce film, je ne sais pas, mais c'est la première fois, je crois, hein, de mémoire, qu'on voit les flics et les agents du FBI aussi maltraités, quoi.
Oui,
ils passent pour des nullards complets, des irresponsables, des hystériques.
Absolument. Il y avait souvent eu quand même les chefs ridicules, on voyait ça dans 48 heures.
Oui, mais pas les flics de terrain.
Non, c'est vrai. Et puis ce mépris pour le FBI vis-à-vis des flics.
Oui.
Aussi. Et puis sur les journalistes aussi un peu.
Ah oui, ouais. William Atherton, formidable, en sensu, il est formidable.
Ouais. Si tu voulais un salopard dans les années 80, t'allais voir William Atherton, il est dans Ghostbusters. Ouais.
Encore une tête à claque prodigieuse.
À l'époque, ouais. T'aurais pu avoir, je sais pas, tu vois, il était un peu à la mode quand même, mais un mec comme Mickey Rourke, tu l'aurais bien vu là-dedans, mais il n'y aurait pas eu la dimension comédie que Bruce Willis amène, tu vois.
Absolument, ouais, c'est vrai, tu as raison, ouais.
Et moi, je trouve que ça, honnêtement, tu vois, j'aime bien dans ce film et tout ça, je trouve qu'il désamorce pas mal. C'est-à-dire savoir que sa femme est en otage avec des terroristes, que l'immeuble est en feu, etc., et qu'il balance des one-liners quand même avec une bonne fréquence, tu vois. Moi, deux, trois fois, ça m'a fait sortir du film, quoi.
Un petit peu, mais c'est vrai, ils sont sur le fil du rasoir par moment, mais je trouve que ça passe quand même. Parce qu'il a
oui, ça passe.
T'as jamais peur parce que tu te dis qu'ils vont pas tuer la femme dans un film qui prend un ton comme ça par moment, tu vois.
C'est ça. Ouais. Voilà, il est tellement décontracté, il s'entend, il se regarde tellement jouer, si tu veux, tu te dis ça va quoi, il y a rien à craindre, il va les dégommer tous. Voilà,
c'est ça. Suspense un peu, ouais, c'est sûr.
Mais Gruber est l'héritier des Eurovillains, des méchants européens comme ça de James Bond. Il m'a fait penser beaucoup aux méchants de Bond. Mmh. Et il annonce aussi un petit peu Hannibal Lecter, je trouve. Dans le fait qu'il est pressant, il est extraordinairement cultivé et il a toujours un coup d'avance, les Blancs.
Parce qu'il a vraiment des par moments, il le filme vraiment presque comme une sorte de fouine, tu vois, ou de belette ou d'animal. Enfin, je me souviens quand il s'approche de la femme de McLean en lui disant qu'il est un extraordinaire terroriste, je sais pas quoi, tu vois. Et tu croirais presque un truc de dessin animé tellement il est un rat un peu, tu vois, une tête de rat.
Mais il s'entend très bien. Vas-y, pardon.
Il avait dans Robin des Bois encore plus exagéré, tu te souviens, on aurait dit vraiment un furet.
C'est ça.
Mais il s'entend très très bien avec Bonnie Bedelia sur le plateau et ils passent tout leur déjeuner ensemble. Je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais on avait vu ça aussi à propos de Silence des Agneaux. On avait vu ça avec Buffalo Bill qui déjeunait tous les jours et prenait, était devenu très très ami avec la jeune femme qui était dans le trou, tu sais.
Il est même
It
sorti avec,
puts
je crois.
lotion in the basket.
Non, mais il est même sorti avec lui, je crois.
Ah bon?
Ah oui, je crois qu'ils ont eu une histoire après. Ouais.
Gossip Laurent est de retour.
Ah oui. Et tu sais que Cybill Shepherd et Bruce Willis, en fait, ils s'étaient donné rendez-vous quasiment au début de Moonlighting pour coucher ensemble, en fait. Tu veux, ils s'étaient dit, ça va enlever la tension sexuelle, tout ça. C'est elle qui raconte ça dans son bouquin. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Et il paraît qu'en fait, que Bruce y est pas arrivé, quoi, tu vois, quoi, que ça a cassé le truc. Mais t'imagines les deux vedettes du show qui se disent, allez, on va coucher ensemble, ça va enlever un petit peu de la tension sexuelle,
C'est
tu vois.
pas
Enfin,
dit hard, c'est dit soft.
Dit hard, dit
C'est ce que
not
faisait,
so hard.
moi aussi gossip un petit peu, c'est ce que faisait, paraît-il, Joan Crawford avec tous ses
Ah ouais?
leading men. Ouais, elle les invitait à dîner la veille du premier jour de tournage pour coucher avec. Comme
Ouais, mais
ça
je
s'est
crois
fait.
qu'il y a plusieurs actrices comme ça et acteurs, hein, sûrement, mais il faut quand même que l'actrice soit d'accord. Et là, c'était, il paraît-il, c'était Cybill Shepherd qui était autant instigatrice du truc que Bruce Willis. Hein.
On voit le tatouage de McClane. Il n'y avait pas beaucoup de héros à l'époque avec des tatouages. Ça, c'est aussi une marque de fabrique de Bruce Willis. Eastwood avait les droits du livre Nothing Lasts Forever. Comme beaucoup de choses à l'époque, ça passait en priorité par Clint Eastwood et souvent aussi par Burt Reynolds. Et à l'époque, il est en train de faire Bird, donc il est très ailleurs. Et il fait The Deadpool aussi, avec Jim Carrey et Liam Neeson, premier rôle, donc il est très
Hélas.
très jeune. Mais McClane est autant, hein, tu disais, ça te sort un peu ces one-liners, mais il est autant un flic qu'un stand-up comédien, parce qu'effectivement,
Oui, c'est
il
ça,
n'arrête
ouais.
pas de faire des vannes, et ça correspond au grand boom du stand-up comique en Amérique et à Los Angeles, les années 80 et 90. Et je pense que ça aussi, c'est un reflet de tous ces one-liners qu'on voit chez Schwarzenegger ou tous ces action-men de
Oui, mais
l'époque.
il garde quand même, tu vois, c'est pas comme s'il y avait Robin Williams ou Jim Carrey quand même, tu vois, c'est là où
Non,
on
en plus,
serait
c'est
dans
un
un peu
humour
plus.
plus particulier qui est un peu moqueur et méchant. Tout le monde
Oui,
est
c'est
en
la
train de...
vacherie, quoi, c'est ce qu'on appelle des
Voilà.
vacheries.
Que ce soit ce jeune hacker, tu sais, qu'on voit dans le film, c'est aussi un des premiers hackers qu'on voit dans les films
Ouais.
d'action. Il est tout le temps en train de faire des vannes où il se moque de tout le monde. C'est ce qu'on appelle les smartass, tu vois. Et c'est une espèce d'humour très particulier des années 90 et qu'on retrouve aussi un petit peu chez Shane Black, effectivement.
Mais dans la construction du scénario, ils feraient plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils prennent leur temps. Hein. C'est-à-dire que tu as toute une installation avant vraiment que les terroristes débarquent. Il y a bien 20 minutes au moins, non? Entre le début.
Oui, exactement.
Alors je me souviens, tu vois quand même le camion, le côté cheval de Troie du camion avec les mecs dedans, ça arrive assez tôt. Mais quand même, ils prennent vraiment le temps de l'installation, tu vois, pour
C'est
présenter tous les
vrai.
personnages. Et je pense qu'aujourd'hui, ils perdraient un peu de ça. Ils iraient trop vite.
Reginald Vell Johnson est formidable. Ils disent
Excellent.
que, on dit que les gens, pendant les années après le film, n'arrêteraient pas de lui jeter des Twinkies, tu sais, cette espèce de gâteau qu'il achète dans la station-service.
Il réapparaît dans le 2, je crois, dans une scène.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais.
Et j'ai pensé à cette époque-là, il y a un acteur, il y a pas un acteur, mais il y a quelqu'un qui aurait pu jouer le rôle, c'est Bruce Springsteen. C'est quelques années après Born
Oui,
in the USA, il est aussi
mais
du
c'est
New Jersey.
le côté tricot de corps, tu vois,
C'est ça,
en polo un peu.
ouais.
J'aime bien le moment où le t-shirt d'un seul coup devient noir. J'ai
Ouais.
vu? Il n'y a pas de progression vraiment. Il est blanc avec des taches de sang. Il sort du tunnel. Il est noir, mais partout. Il est complètement noir.
Mais ça fait un peu cartoon.
C'est
Ben
vrai.
oui.
Mais le maillot de corps deviendrait une espèce de marque de fabrique de tous les héros aussi,
Mais
pendant très
dans
longtemps.
Predator, tu avais des trucs comme ça. Tu avais Schwarzenegger, à la fin, il était quasiment couvert de boue, je crois. Non? Enfin,
Oui, c'est ça, oui.
Mais
Il
McTiernan,
devient.
tous ces héros retournent à l'état animal et primal à la fin,
Comme un
effectivement.
golem, un peu, tu vois.
Exactement. Mais Mike Tiernan, quand il reçoit le script, il est beaucoup plus noir. Et c'est lui qui amène quand même cette légèreté, parce qu'il voulait pas. Au départ, ce sont des terroristes, et c'est lui qui décide que ce sont des voleurs, parce qu'il voulait pas amener un contrepoint politique trop important. Apparemment, Charles Bronson, on lui aurait proposé le rôle.
Ah bon?
Il n'était pas gamin à l'époque.
Ouais, non. Mais tu sais, quand ils avaient pensé à lui pour Snake Plissken aussi.
Ouais.
Ah bon?
Ouais.
Ouais, ouais, ça c'est
Doc
vrai.
Johnson, ouais. Sonny Newman.
Ça n'aurait jamais été un film aussi cher.
Non, non, enfin, je te dis les noms que j'ai là. Don Johnson, Paul Newman, Michael Madsen aurait refusé.
Ah bon?
Ouais. Après Reservoir Dogs, il était un peu hot. Apparemment, Travolta aurait été considéré pour McClane aussi, mais il est un peu has-been à l'époque. C'est avant sa résurrection avec Pulp Fiction. Mmh.
Richard Gere, ça aurait été très curieux. Quoi.
Ouais.
Parce qu'il n'a jamais fait de film d'action.
Et dans le doublage allemand, les terroristes ont des noms américains.
Ah bon?
Ah oui.
Ouais, pour ne pas offenser le public allemand. Ouais.
Mais tu as vu qu'il n'y a pas que des Allemands. Hein. Il y a un Français, il y a un Italien.
Tu as un peu l'impression que c'est, oui, c'est l'Europe qui arrive. Quoi. Mais tu as un peu l'impression que c'est le groupe Europe. Vous vous souvenez du groupe Europe, The Final Countdown,
oui.
Avec des mecs qui avaient des cheveux longs aussi. Tu as un peu l'impression que c'est eux qui arrivent. Tu vois.
C'est vrai, mais
j'aime bien parce que le français, tu le repères dans le groupe à l'audition, s'il dit merde sans arrêt, tu n'as pas remarqué. L'autre entend merde.
C'est drôle, mais ils ont été castés beaucoup pour leur taille. Et Goudounov, moi, je l'ai connu un peu, Goudounov. Il a eu une carrière intéressante. Il était dans Witness, il était dans The Money Pit avec Tom Hanks. Il habitait aussi au-dessus de chez moi. C'était un obsédé sexuel et malheureusement, un très grand alcoolique qui buvait comme boivent les Russes. Il devenait Zapoy et il en est mort,
Il était avec Jacqueline
Bisset. Je ne savais même pas qu'il était mort.
Si, si, il est mort d'alcoolisme trois étages au-dessus de chez moi, dans la même tour j'habitais.
Ah bah merde.
C'était le mari de Jacqueline Bisset ou le petit ami.
Non, ils sortaient ensemble à une époque, effectivement.
He's not good enough.
Mais d'ailleurs, son passé de danseur, tu as vu quand il bouge sur le toit, il bouge comme un danseur. C'est très beau, il a une véritable grâce. Ouais. Même dans sa façon de se battre, c'est de l'art martial, mais c'est un art martial qui est mélangé avec du ballet.
C'est le geste qu'il a magnifique avant de se faire flinguer, c'est carrément du ballet.
Exactement.
C'est quand il enlève la couverture comme ça au ralenti et qu'il pompe son arme, c'est superbe.
Quand tu dis qu'il a des one-liners et des trucs très détendus, en même temps, le combat avec Godunov est d'une très grande bestialité. C'est-à-dire qu'ils sont là, tu vois, à se dire « je vais te bouffer », tu vois, enfin, c'est avec les chaînes, enfin, c'est presque sadomaso, tu vois, ils sont complètement, mais dans une sauvagerie même qu'on ne voyait pas souvent dans ce genre de film.
Il y a un côté homo-érotique qu'on avait aussi.
C'est pour ça que les one-liners me dérangent un peu, c'est qu'à côté de ça, de scène après, il te balance une petite vanne, tu vois.
Est-ce que ça ne crée pas un truc dans le film, tu vois, où tu ne sais jamais un petit peu, si ça avait été trop, tu vois, carré comme ça, machin, est-ce qu'on en serait pas... Parce que ça déstabilise un peu, ce qui fait que tu ne t'attends pas à voir cette violence-là, tu vois. Moi, j'aimais bien être un petit peu malmené comme ça dans le film. Tu vois.
Je pense que les one-liners de Willis m'auraient sans doute moins dérangé s'il les adressait à quelqu'un.
Mm-hmm.
Et ceux qui se fait en aparté, tu sais.
C'est très difficile de se parler à soi-même au cinéma, et il le fait plutôt pas mal, je trouve, Willis.
Oui, oui. Mais dans ce contexte,
ça donnait un côté Titi et Gros Minet ou Tom et Jerry au truc. Hein.
C'est vrai.
Ça,
Philippe, la tension homo-érotique entre Goudounov et Bruce Willis dans le combat m'a rappelé Bennett et Schwarzenegger dans Commando.
Un peu, oui, oui. Lâche un peu la vapeur, Bennett.
on sent que Goudounov est attiré par la doublure de Willis.
En fait, j'avais dit que Bennett était à voile et à vapeur.
Lâche un peu la vapeur.
Michael Kamen fait la musique, mais c'est surtout basé sur Ode à la joie de Beethoven. Je crois que c'est un hommage de McTiernan à Orange Mécanique. Ils sont tous très fans de Kubrick.
Oui, sûrement, sûrement.
Air Force One était un bon die-hard. C'était un die-hard dans un avion avec Harrison Ford et Gary Oldman. Et il paraît que Nick Nolte a refusé aussi le rôle de McClane.
Il aurait été bien, lui.
Oui, il aurait été pas mal. Apparemment, Jack Lemmon aurait essayé d'avoir le rôle.
Non.
Je suis dit,
non.
C'est ce que j'ai vu.
Mais à l'époque de Sinatra, peut-être alors.
Voilà, il était c'est ça. Mais ils ont dit qu'il était trop vieux, mais c'était peut-être juste après que Sinatra ait refusé.
Mais en même temps, là, vous vous souvenez quand même que Jack Lemmon, c'était lui qui devait faire le justicier dans la ville, je crois, au départ.
Oui, c'est ça.
Entre
c'était
autres,
écrit pour lui, effectivement, pour un petit bonhomme, ouais, c'est ça.
Voilà. On aurait pu voir Goldblum aussi là-dedans, hein, Jeff Goldblum.
Goldblum.
Oui. Goldblum.
Mais c'est une très bonne idée que parce qu'il voulait absolument le scénariste voulait absolument une scène entre Gruber et McClane, entre Rickman et Bruce Willis avant qu'ils ne se retrouvent à la fin, si tu veux, en dehors de leur scène magnifique au talkie-walkie qui m'ont rappelé les échanges téléphoniques entre Clint Eastwood et Malkovich dans La ligne de mire, un film que j'adore.
Ouais, ouais.
Mais il a cette scène où tout d'un coup Gruber était obligé de prendre l'accent américain parce que en fait sur le plateau ils l'ont entendu parler avec l'accent américain, ils se rendent compte qu'ils le font très bien, comme le font très bien les acteurs anglais en général. Les acteurs américains ont beaucoup plus de mal à faire l'accent britannique dans l'autre sens, mais là cette scène est formidable où tout d'un coup il se fait passer pour. Alors je voulais vous demander, À quel moment McClane se rend-il compte que c'est Gruber et que c'est un terroriste et non pas Bill Clay?
Je pense dès le début, où il a reconnu la voix, où le fait qu'il soit parfaitement fringué, qu'il n'ait pas du tout de poussière, qu'il n'ait pas de... Tu vois, il y a un truc qui est suspect chez lui.
Mais
tout de suite.
On ne nous explique pas. Il n'y a pas tout d'un coup un plan.
Non, c'est l'instinct du flic. C'est l'instinct du flic, je pense. Mais je trouve que le moment, tu sais, où il se retrouve à la fin, avec il a le flingue scotché dans le dos et tout ça, je trouve que c'est leur meilleur moment à tous les deux. Tu sais, quand il se met à éclater de rire, c'est le meilleur moment de Bruce Willis. Et quand l'autre ne sait pas quoi faire, il se met à rire aussi. C'est fantastique, je trouve. Cet échange, il est énorme.
Absolument. Je me demande si c'est une impro ou pas, mais en tout cas, le flingue scotché dans le dos, c'était dans le livre. Et il y a deux, trois images qui étaient dans le livre d'origine.
Mais ce serait intéressant de savoir si le livre est proche ou pas, parce qu'à mon avis, ils ont dû quand même pas mal réécrire.
Le flic devait être plus vieux, je pense, puisque pour avoir pensé...
Oui, mais apparemment, il s'attachait quand même avec un tuyau et il sautait du building. Donc, j'imagine que c'est Sinatra en Marseille,
Il rampait dans les cages d'ascenseur. Enfin,
Stranger in the night. Ah. Happy trails to you until we meet again. Happy trails to you. Keep smiling until then.
Il y a Robert Davi aussi qui fait le mec du FBI, tu sais, le type qui faisait le méchant dans Permis de tuer.
Exactement.
Il est excellent.
Avec la peau complètement grêlée.
Il est très bon, effectivement. Ils font une
fille. C'est un duo, tu te rappelles, les deux flics du FBI qui ont le même nom.
Je sais plus Johnson et Johnson.
Ouais.
C'est un peu les Dupont.
En plus, en argot, ça veut dire pénis, Johnson.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment une grosse
satire. Tu te rappelles quand ils sont dans l'hélico et que tu as Davi qui fait « Tu te souviens, c'est comme au Vietnam !» Et l'autre qui répond « Quand tu étais au Vietnam, moi j'étais au lycée, connard. »
Et c'est ça aussi qui m'avait frappé dans le film, c'est que quand tu vois arriver les hélicoptères, tu as presque l'impression que c'est Apocalypse Now, tu vois, que c'est la charge des Valkyries, un truc qu'on n'avait jamais vu encore non plus, comme ça, des hélicoptères qui arrivaient dans un truc de polar avec presque une atmosphère film de guerre aussi, quand même.
C'est vrai, mais vous avez vu les scènes où on voit les journalistes qui font des espèces de conférences pour parler des terroristes, ça se moque beaucoup, beaucoup, c'est très satirique sur les médias. Et ça m'a rappelé Romero aussi. Tu sais, à chaque fois, il avait des scientifiques et des spécialistes qui parlaient des zombies à la télévision et qui étaient complètement dépassés par les événements. Toujours ce côté fol amour un petit peu satirique que fait très bien.
Oui, maintenant. Mais ils avaient presque 20 ans d'avance sur le Bataclan et tout ça. Parce que quand tu vois maintenant à Paris, au moment de la prise d'otage du Bataclan, tu avais BFM qui filmait carrément l'assaut. Tu vois, et donc, les terroristes pouvaient voir, s'ils avaient la télé, ils pouvaient voir carrément où étaient les flics dehors. Tu vois, et c'est un peu ce qui est dénoncé là. C'est-à-dire que
on avait vu ça dans Un après-midi de chien. Et d'ailleurs, Madame McLean, Gennaro, elle m'a fait penser beaucoup à la chef des secrétaires dans l'après-midi de chien quand elle prend les choses en main.
C'est vrai. Super actrice, par ailleurs, Bonnie Bedelia.
Oui, elle n'a pas été rappelée pour les suivants, vous avez vu.
Si, elle y est dans le 2.
Le 2,
elle passe son temps dans un avion à côté de William Atherton dans le 2.
C'est ça, voilà, c'est ça. Mais après, le 3, le 4, le 5, elle n'est plus là.
Non.
Il y a un des terroristes, celui qui a marqué « Now I have a machine gun, ho, ho, ho » sur son t-shirt. Mmh. Avec ses lunettes, il ressemble à Jeffrey Dahmer sous stéroïde. Il fait très peur. Et celui qui est à la réception ressemble à Huey Lewis sous stéroïde.
Oui, c'est vrai. Tu as vu d'ailleurs quand il dévale l'escalier avec Jeffrey Dahmer, là.
Ouais.
Tu as vu, c'est bien, on entend la nuque qui craque. Des bruitages,
c'est précurseur du combat entre Daniel Craig et Isaac de Bancolé dans l'escalier de Casino Royale.
Ouais.
Une fois de plus, un endroit très exigu pour un combat et c'est vraiment fantastiquement fait.
Justement, là, quand tu parles de Casino Royale, je trouve que Martin Campbell, c'est un mec qui avait aussi un peu la même élégance un peu pour filmer l'action par moment. Parce que dans Casino Royale, il y a vraiment des traits. Je trouve cinématographiquement, tu sens que c'est assez esthétique.
Ou dans son Zorro était bien filmé. Ouais. C'est la première fois qu'on voit des computers aussi, je trouve, dans les films.
C'est vrai.
Et il y a un côté un peu jeu de la mort de Bruce Lee, parce que chacun des étages a sa personnalité et il affronte un terroriste différent à chacun des étages, quasiment. Et ça me rappelait Bruce Lee grimpant d'étage en étage.
Et tu as vu comment il se débarrasse de Leong, de l'Asiatique, c'est formidable, en une seconde. C'était quand même un personnage qu'on voyait pendant tout le film. Le mec, il ouvre une porte, boum, il le tue, on ne le voit plus.
C'est très gore, la mort de Tagaki. Tu as vu, il y a de la cervelle qui gicle sur la vitre.
Ouais.
Oui, mais ça fait partie encore, je te dis, des moments de déstabilisation parce que tu t'attends pas à un truc de violence. Tu vois, quand on disait, là, tout d'un coup, c'est quand même extrêmement choquant comme mise à mort. Et tu t'attendais pas forcément à cette violence-là. C'est fait pour que tu fasses craindre aux spectateurs que le pire peut quand même arriver, tu vois, parce qu'ils devaient quand même être conscients de ce côté trop décontracté, tu vois, quoi.
Mais c'est vrai que ce qui est très bien filmé dans les combats, c'est qu'on voit tout. Tu n'as pas ce côté dramamine, ce côté très haché et très cut, surcut des Jason Bourne où au bout d'un moment, tu as mal au cœur. Là, c'est très, très bien chorégraphié.
Non, mais McTiernan, il a toujours très bien su filmer l'action, hein, ouais, toujours dans tout ce film. Même les mauvais films qu'il a faits, c'est quand même toujours très bien filmé, quoi.
Ouais. Il y a un truc qui est très bien fait, c'est qu'il s'arme au fur et à mesure. Il pratique l'art de la guerre de Sun Tzu, un livre très en vogue à l'époque chez les exécutifs hollywoodiens. Et à mesure qu'il désarme les terroristes, il s'arme lui-même. Et on a l'impression un petit peu d'un jeu vidéo aussi. Ça, c'est un truc des jeux vidéo. Tu tues les gens et tu prends leurs flingues.
Et tu accèdes à différents niveaux, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une très bonne réplique, c'est « Seul John peut énerver quelqu'un à ce point-là, quand ça se rend compte qu'il est encore vivant.
» Formidable, ça.
Quand Goudounov est hors de lui. Il n'y a plus de films aujourd'hui avec des flics héros, vu que les flics ont une tellement mauvaise image aux États-Unis. Tu n'aurais plus ce côté flic maverick qui arrive comme ça et qui redresse les torts.
D'ailleurs, il n'est pas traité comme un flic réellement, c'est un cowboy, tu vois, parce qu'il n'est pas du coin.
Ouais.
Il n'a pas de pouvoir sur le. Enfin, tu vois, aucune juridiction là où il est. Enfin, c'est vraiment un maverick, quoi. Donc, il n'est pas traité comme un poulet. Ceux qui sont traités comme des poulets, c'est ceux qui sont dehors. Et là, ils sont très maltraités, quoi.
C'est vrai. Mais là où McTiernan, je l'appelle McLean, est très moderne, c'est que sa façon de montrer la presse, on voit que c'est quelques années avant le cirque médiatique d'O.J. Simpson qui partirait dans son Ford Bronco sur le highway. Et c'est un peu la même chose devant cette tour. Et c'est très, très annonciateur. C'est Network aussi. C'est le moment où c'est devenu le cycle d'information de 24 heures.
Et la méthode de William Atherton qui fait chanter la femme de ménage, de machin, en lui disant « je vais appeler l'immigration ». Et ça, c'est vraiment terrible, ça.
Le bûcher des vanités, c'était un peu ça aussi. Hein. Ça montrait aussi, c'était fait de manière satirique et pas forcément très réussi, mais c'était aussi une dénonciation de la dérive des médias qui s'emparent d'un fait divers. Comme ça.
Pourtant, tu te souviens, c'était déjà au début des années 50, il y avait le film de Billy Wilder, Le Gouffre aux Chimères, qui était extrêmement prémonitoire quand même de ça.
Ouais. Et qui avait été un énorme bide. Hein. C'est un des plus gros bides de Billy Wilder. Quoi.
Ouais. Mais le film fait 2h15. Mais on ne s'ennuie pas, hein, y a pas, ça file quand même.
Mais aujourd'hui, il en ferait 2h45, hein, si ça se trouve.
C'est vrai.
Avec un directeur Scott de 4 heures.
Le moins de missions impossibles aujourd'hui fait carrément 2h30, 2h40.
Ouais. Mais c'est vrai que si ça avait été Schwarzenegger, en dehors du fait que c'est plus difficile de s'identifier, il n'aurait pas été crédible en flic new-yorkais non plus, contrairement à Bruce Willis qui est crédible en flic.
Non, mais Al Pacino, je pense que c'était l'idée du flic new-yorkais, mais ça n'aurait pas du tout été le même film. Je pense qu'ils n'auraient pas... Enfin, là, ils ont dû quand même... Enfin, tu n'aurais pas vu Al Pacino faire des cascades. Tu ne l'as jamais vu faire ça. Tu n'y aurais pas cru.
J'emmerde les gendarmes là-haut, là-haut. J'emmerde les gendarmes et la marée chaussée. Et la marée chaussée.
Bien, mes ciné-buddies, on fera pas mieux que Hans Gruber en matière de chute pour notre émission. Merci pour cette aventure haletante dans la Nakatomi Tower. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Voici venue l'heure de vos noms et phrases signatures.
Laurent Vachaud, bonjour chez vous.
Philippe Sedbon, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Pour Abracadapod et Cinéchat, Jean Gruber, signing off. Let it pod, let it pod, let it pod. Maintenant, spéciale dédicace pour Bruce et à tous les abracadamis, bien sûr. Cécilia, ma fille, qui apprend par hasard en ce moment l'ode à la joie de Beethoven, nous fait un petit cadeau en fin d'émission. Pod à la joie.
Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté. Que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs.
Pod. Abracadabra.